Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, nous parlerons de la mort d'un chef militaire du Polisario dans une frappe d'un drone marocain. C'était la semaine dernière. Cet acte éloigne-t-il la piste d'une solution politique au conflit dans le Sahara occidental? Nous en débattrons, mais nous allons d'abord parler du Bénin dans notre rubrique décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Professeur Robert Dossou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Patrice Talon a été réélu. Selon les résultats provisoires de la CENA, la Commission électorale nationale autonome, il a obtenu 86% des voix. Certains béninois et adversaires du président sortant parlent de score stalinien fabriqué. Quel est votre avis sur ces résultats provisoires?
Je voudrais, avant d'aborder l'élection présidentielle béninoise du 11 avril, saluer deux événements. D'abord, l'élection présidentielle au Niger. Même si un de mes amis conteste là-bas le résultat, pour la première fois, un président élu remplace un autre président élu. Et deuxième événement, c'est le dossier Laurent Gbagbo et Blé Goudé, qui montre que l'injustice règne encore en Afrique parce que ce dossier a été monstrueusement injuste. Pour dire que nous continuons en Afrique de camoufler des injustices que nous créons. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 m'a fait penser à une pièce de théâtre. J'ai d'abord pensé à Luigi Pirandello, un écrivain du XXe siècle. Puis ma pensée est allée à du vaudeville, l'écrivain Eugène Scribe, surtout dans sa pièce « Le verre d'eau » ou « Les effets et les causes ». Et je me suis posé la question, Riki Amadougou, tous ceux qui sont arrêtés ont été arrêtés au cours de cette élection. Tout ce monde-là, où est-ce les causes, où est-ce les effets? Ce qui s'est passé le 11 avril, le vote, l'élection présidentielle du Bénin était déjà programmée et prévisible dès 2019. En 2019, la messe était dite.
Qu'est-ce qui vous fait qualifier, professeur Dossou, l'élection du 11 avril au Bénin de pièce de théâtre?
Ceux qui encadrent le pouvoir politique depuis 5 ans sont très intelligents. Et l'instrument principal, c'est la loi. Le jeu est intelligemment mis en place, savamment construit, et il n'y aura aucune surprise tant que le jeu n'a pas été modifié. Parce que une pièce de théâtre est conçue d'avance, c'est conçue d'avance. Mais il a dit, il avait son schéma psychologique en disant, ce qui fait élire un président, réélire plusieurs fois un président, c'est la maîtrise qu'il a des grands électeurs. Tout ce qui ne peut pas maîtriser, on lui a trouvé quelque chose parce qu'on invente et puis il y a des décisions de justice qui sont rendues sans preuve. Il faut le dire. On veut casser celui-ci, il n'y a rien à faire.
Vous parlez de la condamnation de certains, des
Lionel Zissou, bref. On veut vous casser, on prend là, comme ça vous ne serez pas dans la compétition. Et maintenant, quels sont ceux qui vont être de la compétition? Les textes ont été mis en place dans le courant de l'année 2019. Et je sais qu'il y a des députés à l'époque qui avaient voté le texte sans comprendre. Après, ils ont demandé à la Sénat de leur expliquer ce qu'ils ont voté. Donc, le système est huilé, un mécanisme mis en place. La loi et la justice sont les deux principaux instruments. Parce qu'en cours de route, même lorsque vous êtes dans une procédure contre l'État, aujourd'hui en République du Bénin, en cours de procédure, l'État peut actionner sa propre justice contre vous, même si vous êtes en arbitrage international, même si vous êtes dans une contention internationale, eh bien, la justice interne, étatique, béninoise, peut venir intervenir dans la procédure arbitrale.
De votre point de vue, l'élection du 11 avril a-t-elle été transparente, crédible?
Et il faut distinguer le déroulement physique, matériel, de la conception et la mise en place de l'ensemble du système fondé sur des institutions, règles des institutions, organes. Les règles ont été mises en place pour le tri des candidatures. je ne peux accuser de personne de quoi que ce soit. Tant que je n'ai pas de preuves, je ne parle pas. Mais ce que je dis, c'est que tous nos votes depuis 2019 sont gorgés de crispation, de frustration. Il faut que ceux qui sont contre l'élection puissent le dire, manifester s'ils le veulent, sans qu'on les accuse de terrorisme.
La Cour constitutionnelle devrait confirmer ou non ces résultats provisoires. D'après vous, est-elle suffisamment indépendante pour arbitrer de façon objective?
Je ne voulais pas aller sur ce terrain, mais je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, en République du Bénin, la justice, quel que soit l'ordre auquel appartient cette justice, n'est plus réellement indépendante dès que l'État est concerné.
Comment voyez-vous le prochain quinquennat de Patrice Talon si sa victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle?
Ah, mais il va continuer son programme. Mais il y a des points du programme auxquels j'applaudis, auxquels je suis prêt à contribuer, même s'il le faut, mais au plan
lesquels, par exemple?
Ah, mais si on nous donne de belles routes dans le pays, moi, je ne veux pas dire non. Et qu'on me supprime complètement les coupures d'électricité.
Mais est-ce que, selon vous, Patrice Talon va travailler à la réconciliation avec l'opposition?
Si la sagesse l'habite et que Dieu lui donne la lumière, c'est une nécessité. On ne peut pas gouverner sur un peuple frustré.
Professeur Robert Dossou, merci beaucoup.
Merci, Madame Yanka.
Ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Quelles peuvent être les conséquences de la mort dans une frappe de drone marocain d'un chef militaire sahraoui sur la paix au Sahara occidental? Alors que la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir pour parler justement du Sahara occidental. C'est notre débat du jour avec quatre invités. Yahya Zoubir, professeur de relations internationales, de management international et directeur de recherche en géopolitique. Monsieur Zoubir, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et je rappelle également que vous êtes sahraoui. Et nous avons également Oubi Bouchraya, qui est président du Polisario en Europe. Monsieur Bouchraya, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir, madame, et merci pour l'accueil.
Merci beaucoup d'être avec nous. Emmanuel Dupuis, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous êtes le président de l'Institut Prospective Sécurité en Europe, IPS, ici à Paris. Et nous avons également en ligne Claude Magin-Asfari, membre du bureau de l'ARAST, c'est l'Association des Amis de la République Arabe Saharaui Démocratique. Bonsoir, monsieur Asfari.
Je suis madame.
Hein. Ah, pardon, madame.
Mais bonsoir.
J'en suis vraiment désolée,
c'est
madame.
C'est pas grave. C'est
merci à
comme
vous.
Ça avec ce prénom.
Voilà, merci madame. Un prénom hein, masculin et féminin aussi. En tout cas, merci voilà. À vous, madame Asfari, d'être avec nous. Mais je tiens à préciser que tous nos efforts pour avoir la partie marocaine se sont avérés vains. Nous avons même contacté depuis quelques jours l'Institut royal des études stratégiques au Maroc pour avoir un expert. La promesse nous a été faite, mais nous n'avons pas pu avoir un expert sur la question malgré nos relances téléphoniques. Nous allons donc commencer notre débat avec vous, Monsieur Zoubir. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de nouveau sur les conditions dans lesquelles le chef militaire du Polisario a été tué?
Bon, tout ce qu'on sait pour le moment, que ça a été une attaque à partir d'un drone israélien, qui pourrait éventuellement...
Vous dites un drone israélien?
Oui.
Pas marocain.
Il semblerait... Non, c'est un drone israélien, oui, dans la possession du Maroc, évidemment. Il fait partie de l'arsenal marocain, donc qui a été utilisé. Il y a eu des achats marocains de matériel israélien il y a quelque temps de cela. Et là, il a été utilisé comme les Israéliens l'avaient utilisé contre des chefs palestiniens ou chefs libanais. Voilà. Donc ça déclenche, à mon avis, ça pourrait résulter en une escalade du conflit qui a commencé au mois de novembre dernier.
Avec la rupture du cessez-le-feu.
La rupture du cessez-le-feu qui, il faut le rappeler, a été le fait des phares des forces armées royales marocaines. Donc, les Sahraouis ont réagi en disant que maintenant que le cessez-le-feu a été violé, nous, on ne respecte plus. On considère que le cessez-le-feu est nul et non avenu et qu'on reprend la lutte.
Les hostilités.
Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur Oubi Boujraya, comment avez-vous accueilli ce dernier développement sur place au niveau du territoire disputé?
Je crois qu'il y a trois éléments à souligner quant à cette attaque menée par un drone marocain et qui a malheureusement tué un de nos dirigeants militaires le plus qualifié et expérimenté, Feda Bendir, que Dieu ait son âme. Le trois éléments, d'abord, ce n'est pas la première utilisation de drones par l'armée marocaine. Ça a été utilisé déjà à plusieurs reprises, et notamment depuis la rupture du cessez-le-feu le 13 novembre l'année dernière. Cette attaque survient pour confirmer ce que le Maroc veut et essaye de cacher toujours, qui est l'existence d'une guerre féroce au Sahara occidental, et vient pour confirmer aussi la véracité du communiqué publié par le ministère de la Défense sahraoui sur les attaques quotidiennes menées par l'armée de libération sahraoui contre les positions de l'armée marocaine au long du mur militaire au Sahara occidental. Le troisième élément serait une considération tactique, opérationnelle. Bien sûr, le drone est une nouvelle arme, mais qui est venue maintenant pour rester, certainement, pour le reste du conflit, mais nos combattants sauront comment s'y adapter exactement dans la même manière avec laquelle ils se sont adaptés à la stratégie même des murs militaires au milieu des années 80 et à la fin des années 80. Ces murs-là ont devenu un peu anecdotiques dans le jour à jour de la guerre et la confrontation armée entre les deux armées. Et nos commandants militaires sont en train d'adopter et d'étudier la stratégie pour faire face à cette arme.
Merci. Madame Claude Asfari, est-ce que quand on écoute vos deux précédents, les deux précédents intervenants, on a l'impression que la situation va de plus en plus empirer et que d'ici la semaine prochaine, peut-être il y aura même une accentuation de la tension sur le terrain avec la réunion du Conseil de sécurité qui s'annonce?
Écoutez, moi je dirais ce serait tant mieux, parce que je crains que la réunion du Conseil de sécurité la semaine prochaine se limitera à renouveler le mandat de la MINURSO pour un an, sans tenir compte des nouveaux développements, c'est-à-dire la reprise des hostilités, l'accentuation des représailles énormes sur la population civile des territoires occupés, et sur aussi les prisonniers politiques sahraouis. Et que il n'y a rien d'autre qui ne sorte de cette réunion, bien qu'il y a un événement important historique qui a eu lieu le 9 mars dernier, c'est-à-dire la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qui a précisé de manière très claire la manière dont elle revient dans le jeu, en demandant que l'envoyé spécial pour le Sahara occidental de l'Union africaine puisse aller en territoire occupé, puisse réouvrir son bureau pour suivre la situation de près, et demande aux membres du Conseil de sécurité, non permanent du Conseil de sécurité, de reprendre la situation en main. Alors peut-être que la surprise viendra de là, et ce serait une bonne chose, puisque...
Donc vous attendez plus de l'Union africaine que des Nations unies ?
Actuellement, oui, parce qu'effectivement, le Conseil pastoral, le Conseil paix et sécurité a repris les choses en main, et que les pays, le Kenya, le Niger et la Tunisie, ont fait un énorme travail pour que le Conseil de sécurité les remette en selle dans le processus de négociation future. futur qui, j'espère, sera mis en place.
Merci, Madame Asfari. Alors, Monsieur Dupuis, une réaction sur l'ensemble de ce qui a été dit, cette violence sur le terrain, la mort dans des conditions troubles du chef militaire Sahraoui, et puis l'inquiétude aussi qu'on entend, Madame Asfari vient de le dire, déjà sur les conclusions de la réunion la semaine prochaine aux Nations Unies.
Alors déjà, moi, je ne suis pas du tout dans la logique de défendre une thèse ou une autre, mais néanmoins, il faudrait apporter un petit peu d'équilibre à ce débat. Vous avez trois représentants de la République arabe sahraoui démocratique, donc permettez-moi de me faire l'avocat du diable et de représenter la position marocaine. Alors premièrement, évidemment, il s'agit d'un drone Arfan qui a été acheté par les forces armées marocaines, comme du reste beaucoup d'autres forces armées. C'est pas du tout une frappe israélienne, c'est un matériel qui est produit par Israël. D'ailleurs, les Français l'utilisent également dans la lutte contre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-sahélienne. Ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxièmement, la réunion de l'ONU ne vise pas du tout à remettre la réflexion sur une situation ou un enjeu dans un sens ou dans un autre, mais tout simplement, comme l'a dit une intervenante précédente, non seulement de renouveler pour un an la MINURSO, mais d'enfin de trouver un successeur au chef de cette MINURSO. Le président, l'ancien président hors scolaire est démissionnaire déjà depuis 2019. Mai 2019, si je ne m'abuse, et évidemment, il y a une urgence. D'ailleurs, Anthony Blinken a justifié la réunion avec la réunion des Nations Unies dans ce cadre-là.
Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
Ah pardon, secrétaire d'État américain, oui, pour préciser les choses, bien sûr, et évidemment, en tenant compte du fait qu'il faille réouvrir le dialogue politique, et ça, je crois que tout le monde a la nécessité de s'y inscrire. La dernière résolution onusienne, qui date d'octobre dernier, la résolution 2548, enjoint toutes les parties à négocier, et c'est, je crois, ce dont il va être.
Vous parlez de dialogue politique, mais quand vous avez entendu les trois intervenants ici, il semble que la perspective de dialogue politique s'éloigne, et que même peut-être au niveau de la partie sahraoui, on ne compte plus beaucoup sur elle, sur lui, sur le dialogue.
Alors, pour préciser les choses, la résolution 2548 estime que le dialogue doit se faire de manière quadrilatérale. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et les représentants du Polisario. Ce n'est pas le Polisario tout seul. Ça, c'est le premier élément de réflexion. Deuxièmement, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Que l'on ne soit pas d'accord, c'est évidemment parfaitement compréhensible. Mais il y a une initiative. D'ailleurs, la position française, la position diplomatique française s'appuie sur l'initiative marocaine d'autonomie telle qu'elle a été proposée en avril 2007. Troisième élément, évidemment, la situation s'est tendue avec les événements de Guerguerat dans la zone tampon en novembre dernier. Je ne suis pas certain qu'on soit dans une accélération d'une offensive militaire. Je crois au contraire que la situation géopolitique plus régionale, avec une attitude nouvelle de la part du nouveau président, néanmoins élu depuis juin 2019, mauritanien Mohamed Ould Ghazani, qui s'est montré assez conciliant pour réengager le dialogue avec son voisin du Nord, et puis bien évidemment la position algérienne, qui a montré une initiative militaire en massant 35 000 hommes à la frontière au sud-ouest du pays, mais bien évidemment en tenant compte aussi de la pression d'un certain nombre de ses partenaires pour réengager le dialogue sur une base politique,
vous,
diplomatique
monsieur
et pas
Dupuis,
militaire.
Monsieur Dupuis, donc, vous êtes en train de nous dire que malgré l'escalade sur le terrain, malgré le décès la semaine dernière de ce chef militaire sahraoui, la perspective d'une solution politique négociée, comme le souhaitent d'ailleurs aussi les Nations Unies, reste valable.
Déjà, le Conseil Paix et Sécurité s'est vu dessaisir du dossier. Hein. Ce n'est plus au niveau du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine que ce dossier est traité. Ça a été une décision qui a été prise lors du 30e ou 31e sommet de l'Union africaine, si je ne m'abuse, à Addis Abeba, il y a de cela 2 ans. C'est bien au niveau de l'ONU que se traite cette question. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il y a une intense bataille diplomatique pour que l'agenda soit un petit peu plus élargi que celui qu'ont proposé les Américains. Jusqu'à preuve du contraire, les Américains ne sont pas revenus en arrière sur la décision prise par le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, d'ouvrir un consulat à Darla et ouvrant d'une certaine façon un nouveau front qui vise à reconnaître la marocanité de cette partie du Sahara.
Merci. On va justement écouter nos intervenants tout à l'heure sur cette position américaine qui n'a pas changé avec l'arrivée de la nouvelle administration de Joe Biden. Et nous allons le faire dans quelques petites minutes.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans votre émission ce soir, nous parlons de la mort dans une frappe de drone marocain d'un des chefs militaires du Polisario la semaine dernière et ses conséquences sur la paix dans le Sahara occidental à une semaine de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce conflit. Nous avons quatre invités, Claude Mangin-Asfari, membre du bureau de l'ASRAD, c'est l'Association des Amis de la République Arabe Sahraoui Démocratique, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Oubi Boujraya, président du Polisario en Europe, et le professeur Yahya Zoubir, qui est directeur de recherche en géopolitique à Cage Business School. Monsieur Zoubir, hein, donc on vient de parler de cette réunion prévue la semaine prochaine. Le chef de la mission des Nations Unies dans le Sahara occidental, la MINURSO, va présenter un rapport sur la situation telle qu'elle est sur le terrain. Mais comment est-ce que vous la qualifieriez aujourd'hui, vous-même ?
Si vous me permettez, je voudrais d'abord préciser quelque chose pour répondre à M. Dupuis. Je ne représente pas la République sahraoui. Vous avez dit que vous représentez le point de vue marocain, tant mieux. Moi, je ne représente personne. Je suis analyste, j'évalue une situation, donc je n'ai pas de parti pris. Je parle uniquement de ce que je sais. Ça fait 30 ans que je travaille sur le conflit, donc j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous venez de me poser, madame, moi, je suis enclin à croire que, d'abord, la position des États-Unis, elle n'est pas encore très claire parce que en ce moment même, l'administration américaine est en train de peser toutes les décisions qui avaient été prises par l'ancien président, par M. Trump, la décision de reconnaître la souveraineté du Sahara occidental, de la souveraineté marocaine au Sahara occidental, qui au fait a été rejetée aussi bien par tous les membres des Nations Unies et de l'Union africaine. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est une décision qui est en train d'être pesée. Par contre, M. Blinken a bien mis l'accent sur la nécessité de relancer le processus, toujours un processus qui est clairement déclaré qu'il soit fait sans condition aucune, que ce soit des pourparlers entre le Polisario et les représentants sahraouis avec les Marocains, avec généralement. Monsieur Dupuis a parlé des quatre noms. Les deux, l'Algérie et la Mauritanie, sont des parties invitées, observatrices du processus. Monsieur Blinken aussi a mis l'accent sur la nécessité de nommer un représentant, un envoyé spécial
du Polisario, justement,
du secrétaire général des Nations Unies.
Il a demandé à Antonio Guterres de nommer rapidement, c'était en mars dernier, un émissaire.
Et ça, c'était une déclaration très importante. Et les États-Unis n'ont pas dit qu'ils reconnaissaient la décision prise par M. Trump.
Mais Washington n'a pas non plus dit clairement qu'il remettait en cause cette décision.
Oui, il y a pas mal de décisions qui ont été remises en cause. Par exemple, le retrait des États-Unis de l'OMS, par exemple. Ça a été rejeté, la décision sur le climat, etc. Donc il y a des décisions en vue. Mais on n'a pas vu les États-Unis, par exemple, confirmer cette déclaration de Monsieur Trump. Donc, mais le Conseil de sécurité qui va se réunir, évidemment, c'est pour reconduire la MINURSO. Mais en ce moment, les questions qui vont se poser, il va y avoir des questions de fond qui vont être posées. Il y a une reprise des hostilités, il y a un conflit sur le terrain, il y a des résolutions, il y a l'existence même de la MINURSO, c'est la mission des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental.
Merci.
Voilà le rôle de la mission.
Merci beaucoup. C'est vrai que M. Zoubi, finalement, vous n'avez pas dit concrètement, en vos mots, comment est-ce qu'on peut qualifier la situation sur place. Alors, M. Oubi Boujraya, déjà, je réitère ma question. Comment est-ce que vous qualifiez la situation aujourd'hui au Sahara occidental et réagissez aussi à ce que à cette position américaine, le fait que les États-Unis jusqu'à présent n'aient pas encore clairement dit qu'il ne reconnaît pas la souveraineté marocaine, ça n'a pas remis en cause clairement la position prise par Donald Trump. Est-ce que pour vous ce long silence vous inquiète-t-il?
En fait, nous maintenons encore l'espoir que la nouvelle administration ira réévaluer la proclamation de Trump. Ça, on a des indices encourageants dans ce sens, notamment les déclarations du nouveau secrétaire d'État Blinken lors de son allocution devant le Sénat, là où il a dit que les conditions à travers lesquelles les quatre pays arabes ont scellé cet accord avec Israël dans le fameux accord Abraham devront être révisitées, notamment celles qui violent des normes de droit international en référence implicite au Sahara occidental. Mais permettez-moi d'abord de préciser ou de clarifier que l'Union africaine, depuis son sommet le 6 décembre l'année dernière, le sommet qui a été organisé autour du slogan « Faire taire les armes », dans son paragraphe, le paragraphe numéro 15 de sa décision, a souligné l'importance du rôle joué par l'Union africaine et a ressaisi le Conseil de paix et de sécurité de la question du Sahara occidental en lui sollicitant d'organiser une réunion au niveau du sommet des chefs d'État sur la question du Sahara occidental. Ce sommet de chefs d'État a eu lieu le 9 mars. Il a adopté une décision très claire qui marque les lignes générales de la feuille de route qui est nécessaire et souhaitée par tout le monde pour relancer le processus politique. Cette réunion du Conseil de sécurité programmée pour le 21 avril est une réunion pour évaluer mi-terme, on n'aura pas ni un rapport du secrétaire général, ni une décision adoptée par le Conseil de sécurité, sinon une réunion pour évaluer les premiers 6 mois du mandat de la MINURSO. Mais le Front Polisario et la partie sahraoui, on l'a formulé dans les termes les plus clairs, que concernant le processus politique, il y a nécessité, voire une urgence, que le Conseil de sécurité saisisse cette occasion, cette opportunité pour faire un exercice devenu prioritaire, c'est-à-dire d'évaluer en profondeur les causes et les origines de cet échec pendant 30 ans de l'ONU au Sahara occidental. On ne peut pas commencer maintenant à nommer un envoyé personnel vu la situation sur place, la reprise des hostilités, les violations des droits de l'homme qui existent au Sahara occidental, le collapse du processus dans son ensemble. Et on se réunit aujourd'hui pour procéder à nommer un envoyé personnel sans qu'il y ait cet exercice nécessaire. L'envoyé personnel, si on le nomme maintenant dans les conditions actuelles, ça serait une invitation à un échec certain.
Merci, monsieur. Il faut équilibrer le débat. Je ne vais pas donner la parole à madame Asfari tout de suite. On va écouter monsieur Dupuis sur déjà cette réunion, d'abord cette position américaine qui se fait attendre selon les Sahraouis. On a vu les États-Unis se prononcer, la nouvelle administration prendre clairement une décision sur les discussions liées au programme nucléaire iranien, sur l'OMS. Pourquoi la décision se fait-elle attendre sur le Sahara occidental?
Vous avez répondu vous-même, Liliane. Ce n'est pas une priorité américaine. Les États-Unis ont bien d'autres priorités à gérer avant de remettre en cause un certain nombre de décisions que le président Donald Trump avait prise juste avant de quitter son mandat, justement pour créer des feux ou des contre-feux que la nouvelle administration doit éteindre au fur et à mesure. La grosse priorité, c'est évidemment la question du nucléaire iranien. Et de ce point de vue, il apparaît un peu exagéré de penser que l'on va remettre en cause la reconnaissance d'un certain nombre de pays, quatre en l'occurrence, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Soudan,
Sans compter les autres pays africains qui ouvrent des consulats. Le Sénégal encore l'a fait la semaine dernière.
Le Sénégal, 21 consulats effectivement entre La Youn et Darla, mais ça c'est une question accessoire. Donc pour répondre à la question, alors je précise que je ne représente pas le Maroc, mais mon propos consistait à dire que pour essayer d'équilibrer le débat, j'allais me faire l'avocat du diable, je répète mon propos, je ne représente pas le Maroc, mais il faut qu'il y ait un petit peu d'équilibre dans un débat. Donc, pour répondre à votre question, bien évidemment, les États-Unis sont en train de revisiter toute une série de décisions, et celle du 10 décembre, visant à reconnaître la marocanité, avec des guillemets, du Sahara, en ouvrant un bureau d'intérêt économique et en signant deux accords économiques, quatre accords entre Israël et le Maroc, est effectivement l'objet de multiples négociations. Le Conseil national de la sécurité, Jake Sullivan, s'est entretenu avec Meir Shabbat, son homologue du Conseil national de la sécurité, pas plus tard que ce matin, sur cette question. Donc ça, c'est une question parfaitement évolutive. Je prends un autre élément, ne pas oublier, évidemment, ça a été rappelé par un intervenant, que la décision américaine n'est pas passée par le prisme de l'ONU, puisque les quatre autres membres du Conseil de sécurité, eux, en sont restés à la décision et la position qui est celle qui vise à inscrire la question du Maroc dans la liste des territoires non autonomes. C'est la position que la Russie a réaffirmée. Donc, cette liste date de 1966, il faut le rappeler. Merci. Et la position russe, comme les autres pays, dont la France, pour l'instant, n'a pas bougé Nayota, mais je réponds d'une phrase, les États-Unis prendront un petit peu plus de temps que certains le voudraient sur cette question.
Merci beaucoup. Madame Asfari, est-ce que la position des États-Unis ne s'explique pas aussi par la pression diplomatique marocaine ? On a l'impression aujourd'hui que votre cause manque un peu de soutien.
C'est sûr que les 30 ans de statu quo depuis la signature du cessez-le-feu de 91, a bénéficié essentiellement au Maroc, qui en a profité pour coloniser à outrance et exploiter illégalement toutes les richesses naturelles du Sahara occidental, comme on l'a confirmé la Cour européenne de justice, qui, au moment de renouveler les contrats Union européenne-Maroc, ont bien dit que le Maroc et le Sahara occidental étaient des territoires distincts. Donc le Maroc fait effectivement tout ce qu'il faut dans l'illégalité totale. Et,
mais le problème, c'est que vous
exemple,
vous dites...
Son retour à l'Union africaine, de facto, disait qu'il acceptait le texte fondamental qui dit que les frontières héritées de la colonisation sont intangibles. Or, il n'a pas bougé de son occupation du Sahara occidental.
Le problème, madame, c'est que justement votre message aujourd'hui semble de moins en moins entendu. Qu'est-ce que vous redoutez ? Vous-même, vous dites que oui, peut-être la solution militaire reste la seule aujourd'hui, mais sur le plan diplomatique, on voit que vous manquez de plus en plus de soutien. Sur quoi est-ce que vous comptez aujourd'hui pour espérer obtenir, disons, ce que vous souhaiter, c'est-à-dire l'autonomie, l'indépendance, pardon.
Eh bien, nous, on attend que le Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité, dont la France, s'en tiennent au droit international et que la MINURSO fasse ce qu'elle a à faire depuis janvier 91, c'est-à-dire l'organisation du référendum d'autodétermination. Depuis 30 ans, le peuple sahraoui n'a jamais été consulté sur son avenir. Et tous ces faits pour soutenir le Maroc dans sa politique expansionniste et colonialiste qui n'est vraiment plus de saison aujourd'hui. C'est la dernière colonie d'Afrique non décolonisée et le peuple sahraoui, courageusement depuis 45 ans, rappelle à tous leur devoir, c'est-à-dire d'appliquer le droit international. Et il y a des 580 000 sahraouis qui sont dans les camps de réfugiés depuis 45 ans. Il y a des dizaines de prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines qui sont des prisonniers de guerre, puisqu'on est là dans le droit international humanitaire des conventions de Genève signées par le Maroc et le Polisario, et que tout ça, finalement, tout le monde, personne ne l'applique. Donc, je suis désolée, le Polisario a tout fait pour honorer sa signature de 1991. Et le Maroc, avec ses soutiens internationaux, ne fait que aggraver la situation d'un peuple qui se bat courageusement pour le droit à exister.
Merci.
C'est-à-dire le premier article de la de l'ONU.
Merci beaucoup, Madame Asfari. On se retrouve dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons de l'avenir de la paix dans le Sahara occidental après la mort d'un chef militaire sahraoui dans une frappe d'un drone marocain avec 4 invités, Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, Oubi Bouchraya, président du Polisario en Europe, Claude Mangin Asfari, membre du bureau de l'Association des Amis de la RASD, et Yahya Zoubir, professeur de relations internationales. Professeur Zoubir, le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré déjà que la nomination d'un émissaire onusien ne suffit pas. Il a estimé qu'il faut des négociations directes et sérieuses entre le Maroc et le Polisario. Or, le ministre marocain, son homologue marocain, a affirmé qu'il n'en était pas question. C'est l'impasse qui semble se confirmer. Comment en sortir? Oui.
Mais cette impasse, elle existe depuis longtemps. C'est-à-dire que vous avez des résolutions des Nations Unies qui disent qu'il faut un dialogue sans précondition. Le Maroc dit, moi je ne négocierai pas autre chose que l'autonomie. Les Sahraouis s'en tiennent aux résolutions onusiennes sur un processus référendaire. Oui, c'est le blocage. Et justement, le rôle du Conseil de sécurité, c'est de briser justement ce deadlock, cette impasse. Donc,
pensez qu'on va en arriver là, on pourrait en arriver là, le 21 avril prochain?
Je n'en suis pas persuadé. Monsieur Dupuis a déclaré correctement que pour les États-Unis, par exemple, ce n'est pas prioritaire. Maintenant, si les autres membres du Conseil de sécurité, j'en doute, disent qu'il faut régler ce problème le plus tôt possible ou bien qu'il faut en faire une priorité, il est possible qu'il y ait quelque chose qui bougerait. Seulement, le problème est que maintenant, avec la reprise des hostilités, avec la reprise de la guerre, il n'y a pas de doute que les puissances vont s'immiscer parce que les conséquences peuvent être très importantes pour le Maroc lui-même sur le plan économique, pour le voisinage entier. Et il y a une déstabilisation de toute la région. Donc la solution, c'est justement de trouver comment sortir de l'impasse et qu'il y ait un respect. Merci. Des résolutions onusiennes.
Merci. Monsieur Bouchraya, allô?
Oui.
Comment sortir de l'impasse aujourd'hui? Oui. Qu'espérez-vous de cette réunion de la semaine prochaine?
Non, en fait, d'abord, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir un peu sur les questions précédentes.
Vous avez 1:30, s'il vous plaît. Si vous pouvez le faire en 1:30.
Pour vous confirmer qu'en fait, c'est tout au contraire. C'est le Maroc qui se trouve en difficulté pour passer son message maintenant et soutenir sa thèse. D'abord, dans la région de notre voisinage immédiat, les deux pays voisins reconnaissent la République arabe sahraoui démocratique et ce sont des soutiens à la cause sahraoui. En Afrique, on vient de voir la décision du Conseil de sécurité et de paix qui a été rejetée par le Maroc. Nous l'avons acceptée, endossée et ça démontre que le Maroc se trouve en difficulté même en Afrique aussi. Et en Europe, on voit les décisions de la justice européenne. Il y a une décision qui s'annonce d'ici de l'été qui serait aussi un nouveau breakthrough dans ce sens. Et au sein de l'ONU, c'est le Maroc, et malgré les tentatives et tout ça, le mot clé demeure le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. C'est un passage obligatoire. Son projet de l'autonomie n'avance pas. Il est présenté depuis 2007.
Merci,
il
n'avance, M. Bouchraya. Merci beaucoup. Madame Asfari, est-ce que vous faites toujours confiance aux Nations Unies? pour résoudre cette crise qui oppose le Polisario au Maroc? En une minute, s'il vous plaît.
Il n'y a pas d'autre solution que cette question soit réglée par les Nations Unies qui ont fait toutes les résolutions dans ce sens. Mais on sait très bien que les Nations Unies sont dirigées par les États, et c'est les États qui doivent prendre leurs responsabilités. Et nous, les citoyens, par exemple les citoyens français, puisque la France est membre du Conseil de sécurité, on est là pour pousser notre gouvernement à suivre le droit international que les puissances elles-mêmes ont mis sur pied depuis 1948. Donc, on est des démocraties, nos États doivent appliquer le droit international qu'elles ont elles-mêmes établi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Merci Madame Asfari. Monsieur Dupuis, la solution diplomatique négociée semble s'éloigner, en tout cas elle semble de plus en plus compromise, et le Front Polisario essaie aussi d'utiliser la pression diplomatique, parce que le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, a annoncé que la RSD va entamer une procédure pour obtenir un siège de membre permanent, de membre à part entière aux Nations Unies. Est-ce que vous pensez que cette piste pourrait prospérer ?
Non. Premièrement, parce qu'il faut deux tiers des États, et jusqu'à présent, le compte n'y est pas. En tout cas, il y a plus d'États qui ne reconnaissent pas la République arabe sahraoui démocratique que d'États qui la reconnaissent. Deuxièmement...
Il faut l'approbation du Conseil de sécurité et l'acceptation de ses cinq membres permanents.
Et
c'est pas gagné.
L'acceptation des cinq membres permanents, il faut un vote des 15 membres qui composent le Conseil sécuritaire, et il faut une appropriation des deux tiers de l'Assemblée générale. On est très loin au niveau des trois domaines. Encore une fois, je suis pas certain qu'on soit dans une tension particulière comme vous l'évoquez, Liliane. Je crois qu'au contraire, il y a eu des échauffourées, comme ça a été...
Mais comment qualifier la situation actuelle en un mot ? J'ai pas pu avoir cette réponse. Si vous dites qu'il n'y a pas de tension, qu'est-ce qui se passe alors dans le territoire ?
Des tensions ponctuelles, comme il y en a à peu près tous les 5 ou 6 ans, que c'est fortement lié à l'agenda international ou l'agenda du voisinage, en l'occurrence celui des pays qui sont impliqués, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, que, accessoirement, tout dépend, comme ça a été dit précédemment, de la volonté des États. L'ONU, ça n'existe pas en tant que tel, ce sont des États, 193 États. Tout dépend de qui préside le Conseil de sécurité au moment des échauffourées à Gerguerat.
Et maintenant, quelle piste, en un mot, pour débloquer l'impasse?
Eh bien, c'est un dialogue politique. J'en reste à la résolution 2548. Antonio Guterres a été très insistant là-dessus. Reprise d'un processus politique qui passe par des étapes. La première étape, c'est un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il n'est plus en fonction depuis mai 2019. La deuxième étape, c'est la pleine prise en compte de la capacité onusienne de faire avancer la position des États. C'est là où il y a sans doute une complexité qui, après tout, existe depuis 1976, avec des hauts et des bas. Là, on est plutôt dans une situation de recul. Et le troisième élément, évidemment, puisqu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, les Nations Unies ne représentent pas grand-chose par rapport à la position américaine. Le vrai game changer, comme on dit en relations internationales, sera la position américaine. Si la position américaine vise à reconnaître la marocanité du Sahara, il est possible que certains autres membres du Conseil de sécurité ou un certain nombre de pays de l'Union européenne lui emboîtent le pas.
Et c'est là toute l'inquiétude, M. Zoubir, en 30 secondes.
Je ne pense pas que les États-Unis firment la marocanité du Sahara occidental, parce que les États-Unis vont tenir compte des intérêts des autres États dans la région et ne souhaitent pas déstabiliser la région. Et je ne suis pas sûr que pour l'accord Abraham, que la reconnaissance de la marocanité du Sahara par le du Maroc sur le Sahara va changer, enfin que les Israéliens vont changer de position ou de l'accord.
Merci beaucoup Yahya Zoubi, professeur de relations internationales. Merci Oubi Bouchraya, représentant du Polisario en Europe. Claude Mangin Asfari, membre de l'association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique, et Emmanuel Dupuis de l'IPS ici à Paris. Bonsoir.